Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission table ronde sur la radio francophone iranienne. Eh bien, on va aborder dans cette émission table ronde aussi ce qui se passe actuellement aux États-Unis en fait, où il y a eu de ces derniers jours des manifestations de protestation contre le pouvoir politique américain, contre le système politique du pays, contre le racisme, des manifestations qui ont été dégénérées, déclenchées par la mort tragique d'un Afro-Américain, George Floyd, par un policier américain. Pour décortiquer ce qui se passe actuellement aux États-Unis, nous allons partir tout de suite à Bruxelles pour rejoindre un spécialiste belge des questions internationales, un géopoliticien, géopolitologue, Luc Michel. Monsieur Luc Michel, bonjour, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, Amart, et bonjour à tous vos éditeurs. C'est toujours un plaisir de parler sur vos ondes.
Merci beaucoup. Luc Michel, première question. Comment évaluez-vous ce qui se passe actuellement aux États-Unis en voyant, si vous voulez, ces scènes de manifestations, ces scènes de violence de la part des policiers?
Le système américain est dans une crise profonde et une crise qu'on a déjà discernée dans les années 1960, où beaucoup d'analystes annonçaient que la question raciale allait disloquer les États-Unis. Ça ne s'est pas passé dans les années 60, au moment des présidences Kennedy et Johnson, mais on n'y arrive pas à pas. Il faut comprendre ce qui se passe. Il faut comprendre que le racisme, la question, le souvenir de l'esclavage, la ségrégation, il est au cœur de l'idéologie américaine. Par idéologie américaine, je ne parle pas de l'idéologie des partis politiques. Je parle au sens où Marx, par exemple, parlait de l'idéologie allemande, c'est-à-dire les fondements philosophiques d'un système qui façonne une nation. Les Amériques, tout d'abord, elles sont basées sur un génocide et un crime contre l'humanité. Le génocide de la nation indienne, qui a été entrepris entre le 15e et le 19e siècle, il faut rappeler que la colonisation, elle est le fait donc des colons d'origine anglo-saxonne. Il mène contre les Indiens la première guerre biologique de l'histoire. On parle aujourd'hui d'une bio-arme à propos de Wuhan ou de l'Iran, etc. Il faut savoir qu'ils utilisent une bio-arme. C'est la variole qui est transmise aux populations indiennes dans des couvertures et des objets contaminés. La variole, elle donne des boutons aux Européens qui ont une immunité de groupe, mais elle tue les Indiens. On remplace les Indiens comme main-d'œuvre esclavagisée par les Noirs, qu'on amène massivement donc des côtes de l'Afrique, tout d'abord vers l'Amérique latine, vers les Antilles, et puis vers le sud des États-Unis. Le principal port d'arrivée des Noirs étant les populations, les ports de la Louisiane, notamment la Nouvelle-Orléans, etc. Le racisme, il est au cœur de l'idéologie américaine. Pourquoi? Ceux qu'on appelle les pères fondateurs, c'est-à-dire Washington et compagnie, qu'on nous présente aujourd'hui aux États-Unis comme les parangons de la démocratie, les modèles du système démocratique et constitutionnel, le modèle à imiter par le monde, ce sont tous des grands propriétaires de plantations d'esclaves. Washington en particulier fait introduire une loi qui condamne à mort les esclaves fugitifs. À partir de ce moment-là, c'est 4 siècles d'horreur pour les Noirs aux États-Unis. Le capitalisme anglo-saxon, qui est d'essence britannique et américaine, il se forge sur l'esclavage. Oubliez tout ce qu'on vous raconte sur les métiers à citer qui favorisent la révolution industrielle, en commençant par l'industrie du textile en Angleterre. Ce qui la favorise, c'est la production par des esclaves du coton bon marché dans les plantations des États-Unis. Il ne faut pas payer des salaires, c'est ça l'accumulation primitive du capital qui permet ce capital. En 1860, c'est la guerre de sécession. Il y a deux Amériques. Il y a une Amérique du Sud, donc une Amérique du Sud américaine, c'est-à-dire les anciennes colonies qui sont établis autour précisément de l'économie coloniale des plantations et de l'esclavage. Il y a une Amérique du Nord qui est déjà pré-industrielle et qui veut unifier industriellement les États-Unis. C'est la guerre de sécession. Oubliez aussi toutes les théories sur Lincoln qui, par bon dédain, veut arrêter l'esclavage, c'est de la blague. Le but, c'est l'unification économique du continent, la liquidation du modèle sudiste, ces deux oligarchies qui s'opposent en fait les unes aux autres, et à la fin de la guerre de sécession, parce que l'Amérique doit quand même répondre aux motivations idéologiques officielles de la guerre, il y a notamment un livre qui a un succès mondial, c'est La case de l'Angleterre. On libère les esclaves, mais c'est pour les amener dans les usines du Nord, les maintenir dans un statut secondaire dans les États du Sud, et surtout, on établit la ségrégation. La ségrégation, elle va durer de 1865 jusqu'à la présidence Kennedy et Johnson au début des années 1960. Vous allez voir pourquoi j'en arrive à là. La ségrégation, en fait, c'est le développement séparé des Noirs et des Blancs. Les écoles sont séparées. Les Noirs ne peuvent pas aller dans les écoles-universités. Ils n'ont pas droit à la vie culturelle des Blancs. Ils n'ont pas droit au quartier des Blancs. Ils ont des bancs séparés dans les parcs et les jardins. Ils ont des places séparées dans les bus, etc. La ségrégation américaine, elle va servir de modèle aux deux grandes expériences racistes du XXe siècle. La première, c'est l'apartheid sud-africain, en 1947, qui est une copie pure et simple de la ségrégation américaine. Ça vous explique que jusqu'à la fin de l'apartheid, les Américains vont avoir de la sympathie pour les généraux et les industriels sud-africains. La deuxième expérience, elle est peu connue parce que les Américains l'ont fait oublier, c'est les lois raciales du Troisième Reich nazi, ce qu'on appelait les lois de Nuremberg en 1935, lorsqu'ils décident de séparer les Juifs de la nation allemande, et à partir de 1940-41, d'isoler les Slaves des territoires conquis par l'Allemagne, polonais, russes, etc., toujours de la population allemande. C'est purement et simplement Göring, en 1935, qui copie la législation américaine, Hitler ayant beaucoup de sympathie pour les Américains, et en particulier pour le génocide des Indiens, qu'il va appliquer lui-même à l'Est contre toutes les populations indésirables. Lorsque arrivent les présidences Kennedy et Johnson, on met la fin officiellement à la ségrégation. C'est une fin politique. On accorde enfin aux Noirs l'égalité des droits civiques. Il faut se rappeler que la majorité des Noirs ont donné leur sang sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre du Vietnam. Ça ne leur avait quand même pas donné la fin de la ségrégation. C'est ça le système américain. Mais dans la réalité, Kennedy et Johnson ne vont simplement réussir qu'à amalgamer une grande bourgeoisie noire à la bourgeoisie blanche américaine. Ce sont les Comte de la Zaraïs, ce sont les Colin Powell, ce sont les Obama, dont Michelle Obama, c'est une milliardaire dans la gestion des hôpitaux. Ce sont ces gens qui ramènent l'électorat sudiste noir au Parti démocrate. Mais la séparation continue. Il y a simplement la ségrégation des plus politiques et civiques. Elle est une ségrégation qui est purement et simplement sociale. Et on en arrive à la situation actuelle.
S'agissant de la situation actuelle, de Luc Michel, il y a eu surtout en fait cette prise de position de la part des autorités américaines qui ont essayé en fait de remettre sur le compte des facteurs extérieurs, sur des éléments extérieurs, ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Par exemple, Susan Rice, ancienne conseillère américaine à la sécurité nationale, a accusé la Russie d'être derrière en fait de cette situation. Il y a également eu cette accusation qui a été portée contre l'Iran, en disant que voilà, l'Iran serait contre, si vous voulez, cette manifestation aux États-Unis, Luc Michel.
Je vais vous expliquer ce qui se passe. Quand je vois les scènes actuelles, j'ai l'impression de revenir quand j'étais un enfant, où je m'éveillais à la vie politique dans les années 60. J'ai l'impression de revoir Malcolm X, Martin Luther King, les Black Panthers. Mais on est dans une Amérique profondément différente. La classe dirigeante américaine, y compris ce que Frantz Fanon. Frantz Fanon, c'est l'intellectuel de la suggestion des Noirs à la domination blanche. Il appelle les Noirs qui collaborent avec la bourgeoisie blanche les esclaves de maison. Il explique qu'il y avait des esclaves de maison qui sont assimilés. Les Belges au Congo, ils parlaient d'assimilés, justement, et ils les opposent aux esclaves de plantation qui sont les dominés. Lorsque les Noirs de la bourgeoisie américaine parlent, ce sont ceux qu'on appelait dans l'Europe des années 40-44 les collabos, avec un K. C'est purement et simplement ça. La classe dirigeante américaine, elle est prise dans un piège. Ce qui a changé avec les années 60, c'est d'une part qu'il y a les réseaux sociaux, il y a la diffusion des médias de masse, les crimes racistes de la police, ils sont filmés par les téléphones, ils sont diffusés à des millions d'exemplaires, on ne peut plus les étouffer. Les réseaux sociaux permettent l'auto-organisation des Noirs, mais surtout, les Noirs ont une conscience politique qui n'existait pas encore, qui n'existait que dans une minorité dans les années 60. Le rêve des Noirs est assimilé à l'Amérique blanche, ils ont compris que ça ne se passerait pas. La classe dirigeante américaine, elle est dans un piège à l'exemple de Trump. Trump, d'un côté, il veut flatter les petits blancs, il veut flatter son électorat, il veut flatter les communautés, ce qu'on appelle les rednecks. Les rednecks, c'est ce qu'on appelle les petits blancs en français. C'est les nuques rouges. Elles sont rouges parce qu'ils ont des coups de soleil. Ce sont les gens qui sont les blancs de chez blancs. Ce sont les WASP, les White Anglo-Saxons protestants, qui sont le noyau racial de l'Amérique depuis sa fondation de l'Amérique coloniale. Et ils veulent flatter cet électorat. Mais en même temps, lui et les dirigeants démocrates, ils veulent quand même flatter l'électorat noir. Il faut donc aller chercher des boucs émissaires. Les boucs émissaires, on va les chercher habituels. Ce sont les Russes et les Iraniens. Ça a été la même chose dans le passé, dans les sabotages des élections américaines, le trucage des élections américaines, qui n'a pas été fait, on le sait aujourd'hui. L'enquête du procureur général Mueller, elle n'a donné aucun élément impliquant la Russie, mais elle a impliqué les Likoudniks israéliens, on vient de l'apprendre récemment, et elle a impliqué les milieux néoconservateurs américains, en particulier la grande famille des milliardaires américains, soutien de Trump, les Mercer, Fox News, etc. C'est la même chose dont on accuse aujourd'hui la Russie ou l'Iran. C'est un peu, vous savez, la parabole de la Bible, de la paille et de la poutre. Les Américains qui ont une poutre dans l'œil, qui déstabilisent le monde entier, ils sont encore en train de le prouver à Hong Kong ces jours-ci, ils pensent que les Russes ou les Iraniens font la même chose aux États-Unis, c'est une vaste blague. Ce qui a changé, ce sont les conditions sociologiques de la ségrégation. La ségrégation, l'esclavage, il est encore dans les têtes américaines, dans les têtes blanches. Les Noirs sont en train de s'auto-organiser. C'est une auto-organisation de masse. Il y a des mouvements, par exemple, qui veulent que les Noirs font du commerce avec les Noirs. Il y a les Black Panthers qui sont en train de se réorganiser. Le mouvement qu'on croyait disparu a ressurgi. Et il y a un phénomène parallèle, c'est la radicalisation des Blancs. On voit surgir les mouvements néo-nazis, néo-conservateurs, un mouvement raciste de masse, le Tea Party, qui est à la base du soutien de Donald Trump, etc. Mais on voit des gens qui sont très proches, par exemple, des Le Pen en Belgique, les mouvements comme Breitbart, Steve Bannon, les Mercer, etc. C'est les gens qui soutiennent Marion Maréchal Le Pen et qui soutiennent Marine Le Pen en France. Ça vous dit le racisme, etc. Mais il y a également un autre phénomène. On peut dire que comme en 1860, c'est la sécession des Blancs. Aujourd'hui, l'Amérique, il y a deux Amériques. Il y a une Amérique noire qui vit dans des quartiers noirs, en marche des villes, ce qu'on appelle les soi-disant zones urbaines. Et il y a une Amérique blanche qui vit dans des quartiers privilégiés, dans des zones réservées. Il y a même pour les très riches des véritables quartiers privés qui sont des forceresses avec des firmes de sécurité privées. Les juges, le gouvernement, les shérifs, la garde nationale, qui est une garde en fait bourgeoise, elles sont aux mains des Blancs. Et le gouvernement de Trump lui-même flatte cette population. Lorsque Trump explique que quand il y a émeute, on tire, c'est les déclarations reprises de la bouche d'un gouverneur raciste du Sud dans les années 1960. Lorsque Trump déploie la garde civile dans nombreux États des États-Unis, il radicalise évidemment la situation parce que la garde civile, en fait, c'est l'armée de réserve américaine. Elle n'est absolument pas préparée au métier de l'ordre. Elle est préparée à faire la guerre, à tirer. Elle a des armements militaires, elle a des armes de guerre. C'est la police qui est prévue pour maintenir l'ordre, qui a la formation. Mais quand la guerre civile intervient, la police perd la main. Trump cherche évidemment la radicalisation. On peut même le soupçonner, dans une période de trouble, peut-être d'une tension de reporter les élections. C'est une des choses qu'on lui prête ses adversaires. C'est une des possibilités. Mais ce qui a changé, justement, avec les années 60, c'est que les Afro-Américains ne sont plus deux, et les deux Amériques se sont radicalisées. Une Amérique blanche qui refait sécession et une Amérique noire, évidemment, qui s'organise. Ce qui a changé aussi, c'est la base idéologique du mouvement noir. Dans les années 1960, les dirigeants de la population noire, comme Malcolm X, justement, comme les Black Panthers, c'était des radicaux qui étaient proches du communisme, en particulier de Cuba. C'est ce qui a permis de les isoler idéologiquement de la masse de la population noire qui ne voulait pas de ce communisme, qui croyait encore au rêve d'une Amérique donnant la chance à tout le monde. C'est cela qui s'est passé à l'époque. On a eu ensuite les héritiers des Black Panthers. Il y avait par exemple Farrakhan qui existe toujours, c'est la nation de l'islam. Farrakhan, c'était un partisan ouvert aux États-Unis. Imaginez-vous le scandale de Kadhafi. Moi, je l'ai connu dans les années Kadhafi en Libye. Ce sont les gens qui, aux États-Unis, en 2011, ont avec nous défendu la Jamaïria lorsqu'elle a été agressée et détruite par les Occidentaux. Tout cela isolait ces gens et de l'Afrique et en même temps des États-Unis. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que l'hypothèse du communisme n'existant plus, l'hypothèse de Cuba étant en perte de vitesse, les Black Panthers qui ressurgissent aujourd'hui, ils ont renoué avec une idéologie qui n'est plus le communisme, qui est le panafricanisme. Les Black Panthers aujourd'hui, ils arborent le drapeau du panafricanisme à trois bandes, rouge, noir et vert, avec l'Afrique au milieu du drapeau, de couleur jaune. Ce sont les couleurs traditionnelles du mouvement néo-panafricaniste aujourd'hui. Il y a une sympathie des panafricanistes en Afrique pour les Africains, et le panafricanisme renoue avec ses racines. Vous devez savoir que le panafricanisme, il est né à la fin du 19e siècle et avant la guerre de 1914, non pas en Afrique, qui était une Afrique coloniale à ce moment-là, mais il est né dans les Andes, dans les Antilles et les États-Unis. Les grands congrès panafricanistes qui ont structuré le mouvement, la première génération, c'était des Antillais, c'était des Afro-Américains, comme Dutoit, le grand Dutoit, par exemple, comme aussi des intellectuels comme Frantz Fanon, etc. Ce sont ces gens. Aujourd'hui, les Afro-Américains qui s'organisent contre l'Amérique blanche, ce que moi j'appelle l'Amérique caca, avec les trois cas du Ku Klux Klan, c'est une génération qui retrouve ses racines africaines et qui va faire la liaison avec le mouvement néo-panafricaniste, à la fois en Europe, dans la diaspora africaine, et à la fois en Afrique noire, comme ça se passe actuellement. C'est tout cela qui a changé lorsque Trump appelle à la répression. Lorsqu'il dit, par exemple, vous avez vu qu'il attaque les gauchistes, ceux qu'il appelle les antifas. Les antifas, c'est l'extrême-gauche américaine. Trump se trompe d'époque. Il croit qu'il est encore en 1965, au moment des émeutes, etc. Il ne se rend pas compte qu'il y a une petite bourgeoisie blanche qui est aussi plus d'accord avec ce racisme, qui a fait sécession elle-même de la grande bourgeoisie, de la masse des Américains, qui est encore profondément raciste. Et Trump ne se rend pas compte que les vieilles recettes ne vont pas marcher. Il y avait aujourd'hui la représentante du Parti républicain en France, dans un débat sur la télévision d'État France 24, elle soutenait à 100% Trump. C'est l'Amérique blanche. Elle expliquait que c'était des gauchistes, que les Noirs américains ne participaient pas. On est même en train d'inventer une propagande, une bataille médiatique.
Il y a des gens qui vous expliquent sur les chaînes françaises aujourd'hui que la majorité des Noirs qui meurent dans les émeutes, ils sont tués par d'autres Noirs. C'est une blague, évidemment. Il y a des journalistes qui font encore leur travail. Il y avait sur la chaîne La 3, qui est une chaîne de la télévision d'État belge, il y avait un documentaire hier sur le racisme aux États-Unis, qui est dans l'émission qui s'appelle le document du bourlingueur. C'est une émission de reportage international. On expliquait ce qu'étaient les meurtres racistes de la police depuis une vingtaine d'années aux États-Unis. On expliquait la radicalisation d'une partie des petits blancs américains, le retour du Ku Klux Klan, la montée des mouvements néo-nazis, la nostalgie pour la guerre de sécession. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les États du Sud, il y a un mouvement pour défendre le drapeau sudiste, qui est le drapeau de l'esclavage. Tout cela est en train de renaître et renaît à l'ombre de Donald Trump, à l'ombre du Tea Party, l'ombre des néoconservateurs, etc. C'est tout ça qui a changé. Le principal enjeu aujourd'hui, c'est une bataille médiatique, parce que c'est ça qui est la clé centrale. Ce n'est pas une bataille de médias de l'ordre, etc. C'est d'étouffer la voix des Africains. Je pense qu'ici, l'Amérique va échouer. Elle ne va pas réussir le mauvais coup qu'elle a fait dans les années 60. Et tous les gens qui sont les esclaves de maison, toute cette bourgeoisie comprador noire qui collabore avec les anciens maîtres blancs, les Obama, les Condoleezza Rice, les Colin Powells, etc., eh bien, ce sont des gens qui vont échouer. Ils vont apparaître comme une bourgeoisie noire qui a trahi ses origines.
Merci infiniment, Luc Michel, d'avoir répondu en fait à mes questions dans le cadre de cette émission.
C'est moi qui vous remercie, Abad. Iri, Parstoudé, Presse TV, vous faites une œuvre mondiale de salut.